Bonjour Jean-Baptiste Lemoine.
Bonjour.
Pour une renaissance européenne, Emmanuel Macron publie aujourd'hui une tribune adressée aux citoyens des 28 pays de l'Union. Le président de la République énonce une dizaine de mesures, on va avoir l'occasion d'y revenir. Dans la forme, c'est inédit. Est-ce qu'Emmanuel Macron rêve de devenir le grand leader de l'Europe ?
Je crois surtout qu'Emmanuel Macron a une conscience aiguë du fait que l'Europe, elle est un moment de vérité. Je crois que nous sommes un certain nombre à être de plusieurs générations à avoir vu l'Europe comme facteur de réconciliation. C'est le cas de nos parents ou grands-parents après le second conflit mondial. Mais c'est également le cas de ma génération, des trentenaires, des quarantenaires, où en 89, on a vu l'Europe se réconcilier après la chute du mur. Et on voit bien que aujourd'hui, l'Europe, elle est questionnée, elle est remise en question. Parfois, ça conduit à des phénomènes comme le Brexit. Et donc l'Europe, qui jusqu'à maintenant était une addition, commence à devenir une soustraction. Et donc il est important, eh bien je crois, d'enclencher ce sursaut européen. Et le président de la République, eh bien il prend ses responsabilités. Il met des pistes très concrètes sur la table devant les peuples d'Europe.
Prendre ses responsabilités, c'est pas un excès de prétention à vouloir donner des leçons à l'Europe entière.
Vous savez, on est à 3 mois des élections européennes. Il est normal qu'il y ait un débat en Europe sur des projets, sur des idées.
Donc c'est aussi le projet de la majorité présidentielle qui est présenté alors.
Alors vous savez, le président de la République, il ne mène pas campagne. Ce n'est pas lui. Les institutions disent bien. Oui. Mais naturellement, nous serons fortement inspirés par ces éléments. La liberté, la protection, le progrès, c'est l'ADN de cette majorité. Une majorité qui, vous l'avez vu d'ailleurs, sur les idées européennes, s'élargit. C'est non seulement En Marche, c'est non seulement le MoDem et François Bayrou, mais c'est Jean-Pierre Raffarin, venu des Républicains, qui incarne cette fibre humaniste,
qui annonce son soutien, effectivement. Est-ce qu'Emmanuel Macron a discuté, on va venir sur les propositions concrètes, mais est-ce qu'il a discuté de ses propositions avec ses homologues européens avant de les publier?
Vous savez, il y en a un certain nombre d'entre elles qui ont été discutées déjà, en fait, dans le cadre d'un certain nombre d'éléments qu'il avait mis sur la table lors de son discours de la Sorbonne, il y a un peu plus d'un an. Et donc, en matière de défense, par exemple, ce qu'il évoque aujourd'hui, le fait d'avoir un traité européen de défense et de sécurité, c'est un peu dans la droite ligne de cet effort qui a été enclenché par les États membres depuis quelques mois. Et il faut dire qu'on a fait en quelques mois des pas qui n'avaient pas été vus depuis plusieurs décennies. On se souvient de l'échec de la CED dans les années 50.
Quel pas, Jean-Baptiste Lemoine ?
Eh bien, le pas, tout simplement, vers une culture stratégique commune en matière de défense. Tiens, aujourd'hui, regardez, tous les chefs d'agences de renseignement, les chefs d'état-major européens sont réunis à Paris, justement, pour une sorte d'académie européenne du renseignement. C'est une première. Et donc, ça montre bien qu'il y a une prise de conscience aussi commune des menaces dont le monde aujourd'hui recèle, parce qu'on est dans un monde extrêmement instable. Vous avez évoqué dans votre journal un certain nombre de tensions, de crises. Eh bien, face à cela, l'Europe, elle se doit d'être unie et d'avoir un logiciel commun. Parce que, à côté de cela, on voit des puissances qui émergent, des puissances qui sont sur le retour. On pense à la Russie, on pense à la Chine. On voit aussi une action unilatérale et américaine. Eh bien, face à cela, les États membres seuls, s'ils restent seuls, isolés, eh bien, ils sont des confettis qui ne pèse pas dans l'ordre mondial. Et donc, il est important, je crois, d'être véritablement unis et d'avoir cette renaissance européenne.
Parmi les propositions du président français, il y a un office européen de l'asile et une police des frontières communes. Je croyais qu'il y avait un bureau européen d'appui en matière d'asile et d'immigration qui existait déjà. Et je croyais qu'il y avait Frontex pour les frontières.
Oui,
donc, en fait, ça existe déjà.
Mais il vous a pas échappé que... Est-ce que l'Europe a été totalement au rendez-vous sur ces sujets de flux de personnes? On l'a bien vu avec les crises de 2015 jusqu'à nos jours. La réponse est non. Et donc, c'est pourquoi nous avons toujours appuyé une montée en puissance significative de Frontex en moyens, en ressources humaines. Parce que, effectivement, la contrepartie de l'abolition des frontières au sein de l'Union, c'est le fait d'avoir des frontières externes qui soient robustes, qui soient solides. Et la frontière, c'est ce qui permet aussi l'exercice de la liberté dans le cadre de la sécurité sur ce continent. Et donc, il ne faut pas être naïf, il faut mettre des moyens.
Mais est-ce qu'Emmanuel Macron a les moyens d'appliquer, de faire appliquer ces propositions ?
D'ores et déjà, ce que l'on a vu, c'est que le fait d'être très volontaire sur le sujet a fait que Frontex a décidé de monter en puissance avec 10 000 personnels d'ici quelques mois. Donc, je crois que oui,
il y a une prise de conscience à l'horizon. Ouais. Mais qu'a fait Emmanuel Macron pour l'Europe depuis son élection ? On a entendu beaucoup de discours, beaucoup de propositions, et encore ce matin, des déclarations d'intention. Qu'est-ce qu'il a réellement obtenu ?
Écoutez, tiens. Vous savez, dans ces propositions, il y a un bouclier social pour que effectivement, il y ait aussi une convergence de ce point de vue-là, qu'il y ait donc de l'équité quelque part entre les salariés d'Europe.
Ça comprend un salaire minimum, notamment.
Eh bien, il y a un dossier sur lequel, par exemple, les Européens n'arrivaient pas à se mettre d'accord. C'est celui des travailleurs détachés.
Oui, mais
Emmanuel Macron, il a pris son bâton de pèlerin. Il a été voir les chefs d'État et de gouvernement des pays d'Europe centrale et orientale. Et grâce à cela, eh bien oui, il y a eu un accord. Et grâce à cela, les règles ont été revues là où un certain nombre de pays bloquaient parce que ils avaient un certain nombre de ressortissants qui relevaient de ce régime. Eh bien ça, on en parlait depuis des années. Attendez, moi je m'en souviens déjà en tant que sénateur. Eh bien on a atteint un accord et donc les règles ont mis plus d'équité pour que les travailleurs ne soient pas dans le dumping entre eux.
Je comprends bien que vous mettiez ça en avant, mais ça semble être le seul accord obtenu par Emmanuel Macron sur l'Europe depuis son arrivée au pouvoir. La taxation européenne des GAFA, c'est non. Le réel budget de la zone euro, c'est non.
Ah, je peux pas vous laisser
tout ça était dans son
faire ce type de raccourci parce que justement le budget de la zone
il y a
euro
une ligne budgétaire
grâce
qui n'est pas un gros budget.
Grâce à l'accord de Meseberg entre la France et l'Allemagne, ce sujet progresse bien. Pour la première fois, il va y avoir effectivement des éléments budgétaires concernés à ça.
Éléments.
C'est important. Oui. C'est important parce que la
on
zone
est quand
euro
même loin de l'ambition
la
affichée.
Zone euro, dès lors qu'on a une monnaie unique, il faut aussi qu'on ait un certain nombre d'éléments de convergence pour que les crises soient gérées et puis surtout qu'on puisse se préparer à l'Europe de demain, une Europe innovante, une Europe encore une fois où il y a une très grande créativité qui s'exprime. La créativité, c'était la marque de fabrique de la Renaissance. Il y a 500 ans, on fête les 500 ans de la Renaissance. Eh bien, il est temps de faire cette renaissance européenne.
Jean-Baptiste Lemoyne, parlons de l'Algérie. Depuis le 22 février, le pays vit au rythme des manifestations contre un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Est-ce que la France peut se contenter de regarder les Algériens manifester ?
Vous savez, les mots ont un poids. Hein, et on sait à quel point ce poids est important dans les relations entre la France et l'Algérie. Donc, très clairement, mon expression... Elle restera celle de la France et donc vous ne verrez pas d'effet de manche de ma part ce matin. Nous sommes évidemment extrêmement attentifs à tout ce qui se passe en Algérie depuis maintenant deux semaines parce que l'Algérie est un pays ami, attentif. L'Algérie est un pays partenaire important avec lequel on a des liens vraiment extrêmement forts. Ce que l'on sait, c'est que d'ailleurs que la jeunesse qui exprime des aspirations, cette capacité de l'Algérie à donner des perspectives à sa jeunesse est un enjeu qui ne date pas d'ailleurs d'aujourd'hui ou d'hier. C'est un enjeu qui structure notre coopération d'ailleurs. Donc on est particulièrement attentif. Maintenant, c'est au peuple algérien, souverain, qui revient de s'exprimer, de choisir ses dirigeants, de décider de son avenir. Et d'ailleurs, ce que l'on constate, c'est que la jeunesse s'exprime dans le calme, qu'on la laisse s'exprimer. Et puis voilà, maintenant un processus électoral est engagé.
J'entends parler très prudemment Jean-Baptiste Lemoyne. Est-ce que c'est notre histoire commune qui empêche la France de parler plus librement de la situation en Algérie ?
Vous savez, c'est naturellement une histoire commune, mais c'est aussi tout simplement la bienséance des relations entre États. La France, lorsque des États amis et voisins ont commenté telle ou telle mobilisation dans notre pays, on l'a pas forcément très bien pris. Et donc, par conséquent, on s'abstiendra du même genre de méthode vis-à-vis de nos amis et voisins.
Mais quand la France, il y a quelques semaines, dans un contexte aussi de manifestation contre Nicolas Maduro, avait été beaucoup moins frileuse.
Attendez, on peut vraiment pas comparer le Venezuela et l'Algérie.
Ah, mais,
Venezuela, il y a une crise humanitaire, il y a 3 millions de réfugiés, il y a un président Maduro qui aujourd'hui emploie la force contre son propre peuple. Bon. Donc les situations sont vraiment pas comparables. C'est important de remettre les choses à leur niveau.
Pas comparable. Mais si je vous parle de l'Algérie, un président malade qui se maintient ou est maintenu au pouvoir depuis 20 ans, qui brigue un cinquième mandat, est-ce que ça vous semble conforme aux critères démocratiques ? que la France se plaît à défendre?
Vous savez, l'Algérie, elle a sa constitution, elle a un certain nombre de règles. Je ne suis pas le juge constitutionnel algérien. Je ne suis pas algérien.
Certes pas,
et donc, je n'ai pas à m'ingérer. Nous ne sommes pas indifférents, mais nous ne sommes pas dans l'ingérence.
Merci à vous, Jean-Baptiste Lemoine, d'avoir été notre invité ce matin, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.